Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons prier pour ta parole aussi ce matin. Merci parce que tu nous veux dans une relation forte avec toi. Une relation éprouvée avec toi. Une relation qui n'est pas basée sur qu'est-ce que nous aurons, Seigneur. Mais une relation avec toi qui se donne. Une relation, Seigneur, qui est forte. Qui est réelle. Qui est profonde. Merci pour cette parole, Seigneur. Je prie pour ce peuple pour que tu illumines les yeux de son cœur. Et qu'il puisse découvrir les richesses de la relation avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.
Amen.
Ce matin, ça va. Le titre de mon sermon, c'est « Apprendre à avoir une relation équilibrée avec Dieu ». Nous allons voir que Jésus a été suivi depuis qu'il est venu sur cette terre par des foules. Et nous allons parler de la qualité des relations avec Dieu. Parce que nous allons voir que Jésus, même encore aujourd'hui, est suivi par beaucoup de gens. Mais nous allons aussi découvrir que Jésus savait de quelle nature était faite l'homme. Alors nous allons voir d'abord plusieurs passages. Et nous allons voir pourquoi des gens suivaient Jésus. Et nous allons les catégoriser en trois groupes. Et ce matin, je vais vous aider d'abord à vous identifier. À quel type de personne vous êtes? Pourquoi vous suivez le Seigneur? Quelles sont vos motivations? À repérer aussi peut-être s'il y a de mauvaises motivations afin que vous les changiez en bonne motivation. Parce que dans une relation, c'est toujours basé sur des motivations. Et ces motivations viennent de convictions sur lesquelles tu dois apprendre à travailler dans ta vie. Parce que tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans une relation avec le Seigneur. Mais après, il va falloir que tu construises, que tu développes cette relation. Jusqu'à temps d'avoir une relation de qualité avec Dieu. Et vous savez, il y a bien des raisons pour lesquelles nous commençons à suivre Jésus. Nous allons en voir, et l'homme n'a pas changé. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à creuser dans ta vie. Parce que tu te dis, chrétien, c'est bien. Tu peux dire, moi j'ai fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est très bien.
Hein?
Donc tu es entré dans une relation avec le Dieu du ciel.
Mais
cette relation a des principes. Cette relation a des valeurs. Cette relation, il va falloir que tu la développes. Et tu vas voir certaines choses que la parole de Dieu montre. Et peut-être qu'ils vont te montrer à toi-même que tu fais partie de certaines catégories de personnes. Alors, regardons un peu ensemble plusieurs passages. J'en ai pris plusieurs et certains, on va les reprendre plus tard pour différentes raisons. On va regarder par exemple dans Marc, chapitre 6. Disons, on va lire à partir du verset 30. J'ai pas mal de passages à vous lire. Mais il y a certains versets qui m'intéressent plus particulièrement que d'autres. Pardon.
Alors, vous savez, Jésus avait envoyé ses disciples à plusieurs reprises faire des miracles, des guérisons, etc., etc. Et là, par exemple, il est dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné, verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent à lui dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Verset 36, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages, dans les environs, pour s'acheter de quoi manger. Alors, en fait, ici, on voit que Jésus est suivi de partout. C'est un exemple, et là on voit que Jésus a compassion de la foule. Juste après, vous allez voir, c'est là où il fait une multiplication des pains et des poissons.
Ce
n'est pas tellement sur ce sujet-là que je veux enseigner ce matin, mais c'est sur l'aspect des foules. Là, on voit de grandes foules suivre Jésus, et on voit Jésus dire vraiment, ils ont un bon cœur. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'occuper d'eux. Donc on est complètement débordés. Il y a un verset qui parle où Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Pourquoi ? Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Sous-entendu, il y a des bons cœurs. Il y a des cœurs qui ont soif, qui cherchent Dieu, mais il
n'y
a pas beaucoup d'ouvriers. Donc Jésus va réagir comme ça avec cette foule-là. Maintenant, regardons Jean chapitre 6, verset 2. On va voir différentes choses. Ce que je veux d'abord, c'est vous donner un peu le tour. Des gens qui suivaient le Seigneur. Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 1. Verset 1 d'abord. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté, Jean 6, 1, de la mer de Galilée, de Tibériade. Verset 2. Une grande foule le suivait. Regardez bien. Regardez la suite maintenant. Parce que quoi ? Parce qu'elle voyait, donc les gens voyaient, la foule voyait, les miracles qu'il opérait sur les malades.
Hanyuma y'ivyo Yesu avayo ku murongo wa mbere yigira hakurya y'ikiyaga cy'i Galilaya cyitwa Tiberiya, ishengero ryinshi riramukurikira kuko ribonye ibimenyetso akora ku bagwaye.
Donc là on voit d'abord le premier passage qu'on a lu, on voit une grande foule qui a vraiment faim et soif de Dieu.
Igice cya mbere twasomye isinzi ry'abantu rifise inyota
yo kumenya. Qui est prêt à se sacrifier.
Isinzi riteguye kwitanga.
Mais ils veulent entendre Jésus.
Rirondera Yesu.
Ils ont vraiment soif de Dieu.
Bafise inyota byo kuri ya Yesu.
Ici il y a une autre foule. La foule qui est intéressée par quoi ? Par voir des miracles. Ils voient des miracles, mais ils suivent Jésus, pourquoi ? Parce qu'ils voient des miracles. T'as pas vu ce que Jésus a fait ? Il était aveugle, le gars là-bas. Je connais bien, c'est mon voisin. Et alors Jésus a imposé les mains. Et il a vu.
Wow !
Il faut qu'on suive ce Jésus. Donc là, des gens suivent Jésus parce que ils le voient faire des miracles. Donc ils sont intéressés par des choses qu'il fait, que Jésus fait. Marc 5. Un autre passage. Il y a deux miracles qui vont se faire. C'est la résurrection de la fille de Jairus. Et puis aussi cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Et puis il y a cette femme qui vient à partir du verset 25, Marc
5.
Bon, on fait souvent des enseignements sur la foi, c'est très très intéressant, et l'onction de guérison sur ce passage. Donc on va lire assez rapidement, mais c'est pas tellement là, c'est les foules qui entourent Jésus qui m'intéressent. Donc il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, verset 25, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29, Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus continue aussitôt en lui-même qu'une force ou une puissance littéralement était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, regardez, au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Regardez bien verset 31 maintenant. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse? Et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc en fait, on a encore des foules autour de Jésus. Mais il y a une femme qui vient, qui touche le bord du vêtement de Jésus. Et là, il y a une connexion divine qui se fait. La puissance, Jésus sent la puissance, l'onction de Dieu, l'onction de guérison, couler de lui vers cette femme. Cette femme est instantanément guérie par l'onction de guérison. Et Jésus sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais remarquez bien que Jésus dit, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais regarde la foule qui est autour de toi. Regarde la foule. Jésus était entouré de foule. Là où il y a les plus grandes foules sur la terre qui suivent Jésus, c'est très souvent où il y a des manifestations de Dieu, c'est-à-dire des guérisons et des miracles. C'est là où vous verrez les plus grandes foules. Regardons maintenant Marc 3. Marc 3, à partir du verset 7. Dans Marc, vous verrez souvent des grandes foules suivre Jésus. Souvent, Marc va parler de foule. Parce que l'évangile de Marc, c'est là où vous verrez le plus de miracles spectaculaires que Jésus va faire. Donc, régulièrement, vous allez voir des grandes foules autour de Jésus. Nous allons parler de qualité de relations. Et tu vas te poser la question, pourquoi je suis en train de suivre Jésus? J'ai commencé à suivre Jésus. Je vais continuer à suivre Jésus. Mais quelles sont mes motivations? Parce que ça, c'est fondamental. Parce qu'une relation, c'est quelque chose qui doit être à double sens. Une relation qui ne va dans un sens est une relation déséquilibrée et une relation qui n'est pas profonde. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre et qui essaye de déployer quelque chose envers cette personne, démontrer son amour, et que l'autre est comme ça, il ne se passera rien entre les deux. C'est la personne qui est là, qui est avec ses sentiments, son amour et ses illusions. Mais si l'autre ne réagit pas, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'abord de connexion. Et au bout d'un moment, ça va mourir. L'autre personne va se décourager. Ce qui est tout à fait normal. Chapitre 3, verset 7 de Marc. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude. Regardez, ce n'est pas une multitude, c'est une grande multitude. Il y avait quoi? 20, 30, 40 000 personnes, peut-être, on ne sait pas. C'est marrant parce qu'en Kirundi, c'est Ishengero, c'est l'église. Une grande foule, beaucoup de gens. Le suivi de la Galilée, verset 8. Et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain. Donc plein de gens de plein de régions différentes, des environs de Tyr, de Sidon. Une grande multitude apprenant, regardez bien encore, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Verset 9 maintenant, vous allez voir. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Les foules étaient tellement autour de lui que Jésus s'est mis un peu à l'écart parce que sinon c'était trop pressant physiquement pour lui. Vous voyez ? Verset 10, regardez bien. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.
Kuko yakijije benshi rico cyatumye bari bafise ibyago bose bamuhenukira ko ngo bamukoreko.
Il y a trois types de gens qui suivaient Jésus.
Tubonye ngaho abantu b'ubwoko butatu bakurikira Yesu.
Trois types de gens qui suivaient Jésus.
Abantu b'ubujyo butatu bakurikira Yesu.
Donc en quelque sorte dans les grandes foules,
bisobanura ngo mu masinzi y'abantu benshi,
il y avait trois foules.
Hariho amasinzi y'ubujyo butatu.
La première foule,
ubwa mbere,
c'était les curieux.
Hariho abantu bafise amatsi.
Les gens qui voulaient juste voir.
kubona.
Un jour, Jésus a voulu. Il y avait une discussion avec ses disciples et avec un monsieur. Jésus s'approche et dit, mais qu'est-ce que vous discutez de quoi là?
Et
c'était un père de famille qui avait un enfant donc épileptique. Et Jésus commence à dire, mais il dit donc, vous discutez de quoi? Et le père dit, mais voilà, j'ai demandé à tes disciples de chasser, de délivrer mon fils, ils n'ont pas réussi. La Bible nous dit que quand Jésus va venir dans cet endroit, il y avait des gens, Marc 9, 15, on va juste afficher ça. Marc 9, verset 15. Il est dit, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et elle a couru, pourquoi? Pour dire bonjour à Jésus. Bonjour Jésus.
Juste
pour le saluer. Ils sont venus voir Jésus pour le saluer. Un jour, il y avait des pharisiens qui étaient là et qui disaient à Jésus, fais-nous un petit miracle. Allez, un petit miracle. Allez, Jésus. Montre-nous un peu, là, on a envie de voir quelque chose ici.
Vous
voyez, les curieux. Les gens qui venaient dans les foules pour voir ce qui se passe. Vous savez, il y a des gens parfois qui viennent dans les églises pour regarder s'il y a des belles jeunes filles à marier. Mais Steve n'a jamais fait ça. Regardez Jean chapitre 2, verset 23.
Vous
voyez, des gens qui viennent pour voir. C'est vrai qu'il y en a qui se convertissent après, même s'ils ont été voir s'il y avait des jeunes filles dans l'église. Ou des filles qui viennent voir s'il y a des bons garçons dans les églises. Il y en a qui se convertissent après. Donc le Seigneur les attrape là où ils sont. Mais s'ils disent, je suis Jésus, je vais suivre Jésus pour ça, c'est
une
mauvaise motivation. Il y a des gens, parfois, vous savez, vous les voyez quand il y a des croisades, quand il y a des évangélistes qui viennent et il y a des guérisons. À chaque fois qu'on amène quelqu'un qui a un ministère de guérison, les gens viennent en masse. Même des gens que vous n'avez pas vus depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils viennent. Parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a des gens qui sont guéris. Ça, c'est bien pour attirer, mais ça ne fait pas la qualité de la personne. Les Israélites sont le peuple qui ont vu le plus de miracles, les choses les plus phénoménales. Ils ont vu une mer s'ouvrir devant eux. Personne n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, personne ne le reverra. Ils se sont retournés alors que l'armée la plus puissante du monde de l'époque était à leur trousse. Et Moïse a ordonné à la mer de se fermer. Et ils ont vu l'armée la plus puissante du monde être noyée en un clin d'œil. Chaque jour, ils voyaient des miracles. Mais ce n'étaient pas des gens de relation. C'était des gens rebelles. C'était des gens qui avaient la mentalité du désert. Ces mentalités pourries. Et en fait, ils ne suivaient pas Dieu par conviction. Ni ils ne cherchaient même pas une relation avec Dieu. Ce qui les intéressait, c'était soit la curiosité, ou soit être dans le deuxième groupe, les gens qui cherchaient Jésus et suivaient Jésus par intérêt. On a lu tout à l'heure Jean chapitre 6, verset 2. Oui, on peut voir déjà ça. Jean 2, 23 et 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous.
Yohana kabiri mirongo ine na gatatu mirongo ine ngo kandi Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika benshi bizera izina ryiwe babonye ibimenyetso akora ariko Yesu we ntiyabishimira kuko yarazi abantu bose.
Donc là encore, ils croyaient parce qu'ils avaient vu.
Ababizeye kuko babonye.
Mais Jésus savait.
Ariko Yesu yarazi.
Il ne se fiait pas à eux.
Ntiyabishimira.
Les miracles nous attirent.
Ibitangaza birashobora kudukwega.
Les témoignages nous attirent.
Intahe zirashobora kudukwega.
Mais ce n'est pas ça qui fera la profondeur de ta relation avec Dieu.
Ariko sibyo sibyo bituma ushikama uhagarara n'Imana.
Nous verrons qu'il y a différentes raisons pour lesquelles nous venons à Dieu, ce qui est tout à fait normal.
Turaza kubona ko hari bituma bitandukanye bituma tuza ku Mana,
ibyo ni bisanzwe. Tu vas te mettre en connexion avec Dieu.
Ibituma ushobora kuza kwifatanya n'Imana.
Mais après il faut que tu travailles ta relation.
Ariko munyuma biragusaba ko nawe uteze imbere imigenderanire yawe n'Imana.
Et on verra qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui n'avancent pas dans leur relation pour diverses raisons.
Turaza kubona ko hari abakristo benshi badatera imbere mu migenderanire.
Donc, deuxième type de foule qui marchait avec Jésus, c'est ceux qui le suivaient, le cherchaient par intérêt. Comme nous l'avons lu dans différents passages, des gens qui se jetaient sur lui parce qu'ils étaient guéris. Ils étaient intéressés par Jésus parce qu'ils étaient guéris. Les 10 lépreux vont voir Jésus, pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème de maladie incurable. Donc ils viennent vers Jésus, pourquoi ? Pour être guéris. Mais nous verrons aussi leurs problèmes après. Beaucoup de gens viennent à Jésus pour quelque chose au départ. C'est normal quand tu ne connais pas le Seigneur. On te dit Jésus guérit. On te propose de prier pour toi. Et tu vois la main de Dieu dans ta vie. Ce qui fait que tu vois que Dieu peut devenir personnel. Et après on t'annonce l'évangile. Et un bon nombre de gens, pas tous, un bon nombre de gens, se donnent au Seigneur parce qu'ils ont vu la main de Dieu dans un problème qu'ils avaient et Dieu a répondu à ce problème. Ils étaient malades, ils sont guéris, ils donnent leur vie à Jésus. Ils avaient un problème relationnel avec quelqu'un, on prie pour eux, Dieu intervient miraculeusement et ils se donnent à Jésus. Ils ont un problème dans leurs finances, on prie pour eux. Ils voient la main de Dieu et ils écoutent l'évangile et ils viennent au Seigneur. Il y a différentes raisons pour lesquelles nous avons été attirés par le Seigneur. Et très souvent, Dieu nous a attirés entre guillemets par notre convoitise. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait besoin de quelque chose que l'homme ne pouvait pas répondre à notre besoin. Et donc, on nous a dit Dieu est ta solution. Et nous sommes venus à Dieu. Et Dieu a répondu à ce problème. Problème de péché, problème de maladie, problème de finances, problème relationnel, différents problèmes. C'est normal. C'est normal. Nous sommes tous venus à Christ parce que nous avions des problèmes. Personne n'est venu à Jésus ici en disant Seigneur, tu sais, je suis une personne tellement bien, tellement formidable, mais bon, j'ai entendu quand même parler de ta grâce. Si tu veux, tu peux me faire grâce. Personne n'est venu comme ça. On a tous su qu'on était pécheurs et qu'on avait besoin de la grâce et de l'amour de Dieu. Donc on est tous venus parce qu'on avait un besoin particulier. C'est normal, il est Dieu. Nous sommes des hommes. Nous avons besoin de lui. Et au moment où nous crions à lui, avec un cœur sincère, avec la foi, il va répondre à notre besoin. Il va nous toucher. Beaucoup de gens suivaient Jésus parce que il faisait des miracles. Parce qu'ils avaient été guéris, délivrés. Même des femmes qui finançaient le ministère de Jésus, nous dit dans Luc 8. Il y avait une dame qui avait été délivrée de 7 démons. Gloire à Dieu, c'est un besoin. Dieu est là avec ses mains ouvertes. Il donne sa grâce. Il touche les vies. Il répond aux besoins des êtres humains. C'est le deuxième type de foule qui suivait Jésus.
Ceux
qui avaient des besoins.
Et
Jésus répondait à ces besoins. Vous savez, l'histoire des 10 lépreux, ça nous enseigne beaucoup. Parce que les 10 lépreux, il y en a un qui revient dire merci au Seigneur. Mais Jésus n'a pas dit, écoutez les gars, moi, le Saint-Esprit vient de me dire que si je vous guéris tous les 10, il y en a 9 qui repartiront sans jamais dire merci et revenir à moi.
Vous
savez, Dieu est bon. Parfois, vous allez prier pour des personnes qui vont être touchées et leur besoin est répondu. Et ces gens-là n'accepteront jamais Jésus. C'est triste. Alors on va se dire, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu va guérir ce païen alors qu'il sait que ce païen ne va pas venir à lui? Je vais te donner la réponse. J'en sais rien. Il n'y a qu'une chose qu'on sait, c'est que Dieu est amour. Dieu veut donner une chance à chaque personne de se repentir. C'est vrai, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert de faire quelque chose alors que la personne ne va pas répondre à l'évangile? Alors que d'autres auraient peut-être des besoins. Et Dieu n'intervient pas dans leur situation.
Vous
savez, il y a parfois des choses qu'on ne comprend absolument pas. Pourquoi est-ce que Jésus va guérir 10 lépreux sachant qu'il y en a 9, 90%? Ils ne vont pas revenir. Et il
n'y
a qu'un malheureux étranger non israélite qui revient et qui lui dit merci.
Et
moi je suis entièrement guéri. Pourquoi cela? Dieu est amour. Il aime tous les hommes. Il peut agir partout où il y a un peu de foi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bon type de foule. Le troisième type de foule, ce sont les gens qui vraiment ont des cœurs. Le cœur du disciple. Et ça, c'était les gens qui étaient les plus proches de Jésus. Mais tous n'étaient pas parfaits. Un douzième n'était pas parfait. Il y en avait un douzième qui était pourri. Jusqu'à l'os.
Judas.
Mais Jésus voit certaines personnes qui le suivent et dans lesquelles il voit un potentiel de disciple. D'investisseur. Et c'est cela qui intéresse plus le Seigneur. Ce sont des gens, oui, ils ont été touchés par la grâce, parce que nous sommes tous touchés par la grâce. Ils sont peut-être venus à Jésus, ils étaient peut-être dans la deuxième foule au départ. Ils ont été guéris. Il y a une provision surnaturelle, une réponse à une prière. Ils sont venus à Jésus grâce à cela. Mais eux, leur désir, c'était de développer et c'est de développer leur relation avec Dieu. Ces gens-là, Dieu veut investir en eux. C'est un temps d'investissement où les personnes vont grandir dans la relation avec Dieu. Parce qu'il est très important de comprendre. Rentrer dans une relation avec Dieu, oui, nous rentrons au travers de la nouvelle naissance. Maintenant, il va falloir que tu passes de celui qui a trouvé ce que tu cherchais à quelqu'un qui va développer une réelle relation équilibrée avec Dieu. Et ça va demander tout un travail. Un travail de renoncement. Un travail de construction. Un travail de restauration. Alors, dans notre relation, il y a différents éléments avec Dieu. Vous savez, quand nous commençons avec Christ, nous avons une relation qui n'est pas du tout développé avec le Seigneur.
Et
nous avons souvent des choses qui sont extrêmement déséquilibrées. Le bébé spirituel, c'est quelqu'un qui a une relation très déséquilibrée avec Dieu. Le bébé spirituel, une de ses caractéristiques, c'est pas la seule, c'est que c'est quelqu'un qui ne pense toujours qu'à lui-même. La seule chose qu'il veut, c'est toujours recevoir. Je veux que Dieu fasse ça. Moi, je prie pour moi, moi et
moi.
J'ai besoin d'une prophétie pour me consoler. J'ai besoin que Dieu me donne. Je prie pour ça parce que moi, j'ai besoin de ça, moi. En fait, le bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, qui est en connexion avec Dieu, en relation avec Dieu, mais il n'a pas développé sa relation avec Dieu. Il est tout le temps en train de penser que Dieu, c'est une pompe.
Enfin,
c'est une source, excusez-moi. Et lui, c'est la pompe.
Il pompe.
Il est toujours en train, moi, Seigneur, donne-moi. Il ne pense qu'à lui. Et ça, c'est pas une relation équilibrée du tout. C'est quelqu'un qui ne s'est pas développé dans le Seigneur. Il est très déséquilibré. Cette relation n'est pas juste devant Dieu. Cette relation est toujours à un sens. Dieu doit toujours faire tout pour eux. Mais eux ne pensent jamais à ce qu'ils peuvent faire pour Dieu et son royaume. Ils n'ont pas l'aspect du le cœur du serviteur. L'aspect du service. C'est toujours, qu'est-ce que Dieu fait pour moi?
Ils
ne cherchent pas à plaire spécialement à Dieu. Ce qui les intéresse, c'est, qu'est-ce que Dieu va me donner? Seigneur, j'ai besoin d'un boulot. Seigneur, j'ai besoin d'une promotion. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses guili-guili dans le dos. En fait, ils sont dans la louange et l'adoration parce qu'ils veulent ressentir. Ils
ne
sont pas là en train de louer et adorer Dieu réellement. En fait, ils louent Dieu et ils adorent Dieu pour leur bénéfice. Ils ne prient que pour eux. Ils sont orientés sur eux. Ce n'est pas une relation équilibrée.
Ça.
C'est une relation déséquilibrée.
Vous
voyez, c'est la même chose quand nous rentrons dans une relation avec quelqu'un. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation d'amitié, il y a beaucoup de déséquilibre. Souvent, les gens, par exemple, ils disent, je voudrais connaître un tel, simplement pour savoir qu'est-ce qu'ils vont retirer de la personne.
Il n'y
a rien de pire que cette relation pourrie que vous commencez là. Les gens sont là, ils veulent connaître telle et telle personne qui ont telle et telle position. Uniquement pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent pomper d'eux. Et les patrons ici, ou ceux qui sont dans des positions très élevées du gouvernement, vous le savez, tout le temps à votre porte, il y a des gens qui sont là pour vous quémander quelque chose. C'est pour ça qu'en général, il y a la porte officielle et il y a la porte de derrière, par laquelle vous pouvez fuir sans être vu. Parce que vous savez que si vous avez le malheur d'ouvrir la porte de votre bureau et du secrétariat, il va y avoir 10 personnes qui vont dire « Ah, il faut que je vous voie tout de suite !» C'est urgent de l'urgent du sururgent. Et c'est la même chose. Quand des gens rentrent dans une relation amoureuse, très souvent le problème c'est de savoir qu'est-ce que je peux tirer de l'autre. La fille qui regarde, il a une bagnole. Quelle bagnole il a? Est-ce qu'elle tombe en panne souvent, sa voiture? Est-ce qu'il a de quoi payer l'essence régulièrement? Est-ce que les pneus sont usés ou pas? Parce que je veux pas un garçon qui roule avec des pneus usés avec sa voiture.
Vous
voyez, on scrute d'abord.
Umuntu akabanza gusuzuma gupima.
On essaye de chercher d'abord qu'est-ce qu'on peut. Et ça, c'est très mauvais. Et souvent, on n'a pas été éduqué dans le Seigneur. Et quand on n'est pas éduqué dans le Seigneur, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les autres, c'est une catastrophe. C'est des relations complètement déséquilibrées. Et après, ça se passe mal et on se demande pourquoi ça se passe mal. Mais c'est normal, c'est une relation à sens unique. Et les relations à sens unique ne marchent pas. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les hommes. Mais souvent, on ne le sait pas. Il va y avoir une épreuve dans la relation. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Les relations, que ce soit avec Dieu ou avec les hommes, sont éprouvées. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Tu as reçu Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là il y a deux jours. Et c'était quelqu'un qui avait entendu l'évangile il y a très longtemps. Il habite en Belgique. Et il m'écrivait pour avoir quelques conseils. Et pendant des années, il était très loin du Seigneur à faire toutes sortes de trucs. Et puis, il a eu un rêve. Et le Seigneur lui a parlé pour qu'il revienne à lui. Et il me dit, depuis que j'ai fait ce rêve, j'ai envie de dévorer la parole de Dieu. J'ai envie d'être que dans les choses de Dieu. Vous voyez, ça c'est le premier amour du nouveau converti. Tu te donnes à Christ, tu as envie de tout connaître. T'as envie de lire la Bible. T'as envie de prier. T'as envie d'être avec les gens qui parlent de Dieu. Même si on te raconte n'importe quoi, il suffit qu'il y ait le nom de Dieu dedans. T'es comme ça. Normal, tu viens de te convertir, t'as le feu du premier amour. Et c'est Jésus qui parle à une église dans l'Apocalypse 2. Et Jésus dit... Non, c'est pas ça. Verset 2, lisez un peu plus loin. Verset 3, okay, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, dit Jésus, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, c'est-à-dire d'où tu viens, entre guillemets, et repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Voilà. C'est juste ce passage-là. Verset 4 est un morceau du verset 5.
Kane na gatanu ngo ariko icyo mfise nkugaya ko nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ni wibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere.
Qu'est-ce que Jésus dit ici?
Ah Yesu mbega vuziki.
Il dit ce que j'ai contre toi.
Ati cyo nkugaya ko.
C'est quoi?
Niki.
C'est que tu as abandonné ton premier amour.
Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere.
Ton premier amour, la flamme du premier amour.
Urukundo rwawe rwa mbere.
Rappelle-toi d'où tu as été tiré.
Wibuka aho wakuwe.
La flamme du premier amour.
Urukundo rwawe rwa mbere.
C'est quand les deux fiancés là sont là et puis ils font comme les petits oiseaux.
Hamwe fiancé barabana bakaryoherwa bakumva nyene bidudubiza muri bo.
Ça c'est beau.
Ivyo ni vyiza.
Mais ça va passer.
Ariko birarengana.
Parce qu'il faut que ça soit transformé.
Ça,
c'est une période. Mais c'est une période qui ne durera jamais parce que tu ne peux pas être tous les jours. Parce que quand il va pleuvoir, tu vas faire. Tu vas avoir à faire. Aux difficultés de la vie de tous les jours. Hein, Steve, je te prépare.
Hein.
Ah, t'as de la chance, t'es préparé pendant les sermons, toi.
Hein.
Parce que c'est normal. Au début, c'est une relation du premier amour qui est une flamme, mais qui est un feu de paille. C'est un feu de paille. Un feu de paille, vous savez, quand vous faites brûler de la paille. Vous allumez, et d'un coup, vous avez une grande flamme. Mais vous allez admirer le grand feu pendant quelques minutes. Parce que la paille, ça brûle vite. C'est la même chose dans ta relation avec le Seigneur. Ton feu du premier amour va brûler vite. Il va brûler vite. C'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas un amour qui a été éprouvé. C'est un amour qui est encore très sentimental de ta part.
T'es
venu à Jésus parce qu'il a fait des choses pour toi. Parce qu'il a pardonné ton péché. Parce que tu as la joie du salut. Et c'est normal et c'est bon. Mais
ce n'est
pas un amour éprouvé. C'est pas un amour qui est dans les profondeurs divines. C'est un amour parce que tu as reçu. Parce qu'il t'a peut-être guéri. Parce qu'il t'a délivré de ton péché. Parce qu'il a mis la vie éternelle en toi. Et tu te réjouis et c'est bien. Et c'est normal. Donc tu es enflammé comme un feu de paille d'amour pour le Seigneur. Mais tu ne vas pas rester dans cet état-là pendant des années. Il y a un moment où ce feu de paille va diminuer.
Et
il va falloir que tu alimentes le feu qui a démarré avec d'autres choses que de la paille.
Et
il va falloir mettre des choses un peu plus solides, consistantes, qui vont créer une relation avec le Seigneur, qui va ne plus être basée plus sur un aspect sentimental d'expérience du salut réel qui s'est passé en toi, mais qui a créé beaucoup de joie, la joie du salut, mais ça va être basé sur une relation qui va commencer à devoir s'équilibrer. Dieu, bien sûr, est ta source. Mais il va falloir que toi aussi, tu apprennes à te donner à Dieu. Et à le servir. Et à marcher dans un amour qui n'est plus un amour qui est basé sur « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui ?» Mais un amour qui dit « Seigneur, je veux apprendre à te plaire. Il y a des choses dans lesquelles je vais devoir renoncer. Il y a des choses difficiles que tu vas me demander. » Parce que Jésus a été clair. Celui qui veut être son disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez Luc 14. J'espère que ça vous parle ce matin, parce que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de travailler votre relation avec Dieu. De passer, à partir du verset 25, Luc 14, de passer de cette relation trop encore sentimentale avec Dieu. Ou cette relation intéressée avec Dieu. Un amour qui a été éprouvé par le feu. Rappelez-vous d'une chose. L'or est purifié avec le feu. Quand tu ramasses des pépites d'or, si tu les revends comme ça, tu ne les revendras pas cher. Parce qu'il y a beaucoup d'impuretés dedans. L'or n'est pas pur. Pour le purifier, il faut le faire passer au feu. Et ta relation avec Dieu, c'est la même chose. Ta relation avec les êtres humains, c'est la même chose. Une vraie relation, ce n'est pas quand tout va bien tout le temps, à 100%, 365 jours par an. Une vraie relation avec Dieu s'éprouve. Et aussi avec les êtres humains s'éprouve. Lorsqu'il y a des bons moments et des mauvais moments. Mais c'est dans les mauvais moments où tu sais qui tu es. C'est là où ça révèle ton cœur. C'est au moment où tu es dans le feu de toutes les difficultés que apparemment tu pries et Dieu n'a pas l'air de répondre, que là vraiment on voit qui tu es, quel type de personne tu es. Il y a un jour quelqu'un qui a prêché la chose suivante. Il a dit: si Dieu ne répondait à plus aucune de tes prières jusqu'à la fin de ta vie, si tu ne ressentais même plus la présence de Dieu une seule fois dans ta vie, est-ce que tu serais encore attaché à sa personne? J'ai trouvé la réflexion intéressante.
Pourquoi
est-ce que tu suis le Seigneur aujourd'hui? Pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il fait pour toi, ou pour qui il est? Est-ce que tu suis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi? Pour ce qu'il va te donner ou te donne, ou pour ce que tu espères recevoir? Ou est-ce que tu suis Dieu parce qu'il est Dieu? Ça doit être ta motivation. Quand tu as compris ça, ta relation avec Dieu va devenir puissante. Seigneur, je te suis pour qui tu es. Je t'aime pour qui tu es. Ça, c'est la vraie relation avec Dieu. Le reste, ce sont des étapes dans notre relation. Mais ces étapes dans cette relation, ces niveaux relationnels, tu dois les franchir. Si tu n'es encore que dans l'état où tu aimes Dieu pour ce qu'il fait pour toi, ou parce qu'il a répondu à ta prière le jour où tu avais des gros gros problèmes, tu es encore dans un niveau de relation extrêmement faible. Il va falloir que tu changes. Tu changes ta façon de voir ta relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus encore aujourd'hui? Quelle est ta motivation? Si tu t'es refroidi, mais c'est normal. C'est que tes motivations ne sont pas bien placées. Aime Dieu pour qui il est. C'est la source totale du bonheur. L'aimer pour qui il est. Non pas pour ce qu'il a fait ou ce qu'il fera ou ce qu'il fait pour toi. Ça, c'est la crème ou la cerise sur le gâteau ou la fraise sur le gâteau. Mais ça ne doit pas être ta motivation interne. Et Dieu éprouvera ta relation. Jésus a éprouvé la relation avec les disciples et les foules plusieurs fois. Il est dit ici, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et d'un seul coup, Jésus fait quoi? Il se retourne et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Imaginez-vous quand les gens ont entendu ça, ils ont dit
Gukanishengero ryinshi ryari rijanye nawe arahindukira arababwira ati umuntu niyaza kuri jewe ntiyanke se ntiyanke nyina ntiyanke n'umugore wiwe n'abana biwe na bene nyina n'abashiki biwe mbere n'amagara yiwe nayo ntashobora kuba umwigishwa wa
Dieu est un Dieu exclusif.
Imana ni imana novuga yikunda.
C'est lui et lui seul.
Niwe niyo kandi yo
yonyine. La Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux.
Bibiliya ivuga ngo ni imana ifuha.
Et ce n'est pas un sentiment négatif de la part de Dieu. C'est parce qu'il sait. Il sait une chose. Quand l'homme ne le met pas en premier dans sa vie, alors c'est le désordre. L'inverse. L'opposé de l'ordre divin dans nos vies. L'ordre divin dans nos vies, c'est qu'il soit exclusif dans nos vies. Mais trop de gens font du mélange. Oui, il y a Dieu et il y a tout le reste. Maintenant, c'est ton choix. Ton choix est ta priorité d'exclusivité. Dans ta relation avec Dieu, dans tes choix, dans tes motivations, dans tes convictions. Qu'est-ce que tu fais? Qui mets-tu en premier? Dieu et le reste, c'est dans un même panier? Et c'est le Seigneur, oui, d'accord, mais des fois c'est autre chose? Ou est-ce que tes motivations, tes convictions sont centrées sur lui? Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, alors on a eu tellement de baratin sur cette expression porter sa croix. Tellement de choses qui ont été prêchées là-dessus qui ont été fausses. Et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Est-ce que tu es un adhérent ce matin? T'aimes bien les choses de Dieu? T'aimes bien Jésus? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Jésus.
J'ai
entendu pour ce qu'il fait pour eux.
Ouais,
j'aime bien Jésus.
Je
prie dans une église.
C'est
ça ta relation avec Dieu, toi.
Mais tu
n'as rien compris. Mais rien du tout. Jésus est un Dieu exclusif. C'est lui et lui seul. Et il le dit clairement. Et le dit tout le reste, ça va passer au second plan. Et quand je dis le second plan, c'est qu'entre ta priorité qui est Dieu et le reste, il y a une grande distance que tu dois mettre.
Et
c'est pas comme les courses avec Usain Bolt. Des fois, les gens, ils sont... mais là, c'est vrai qu'il a tellement gagné cette grande legend. Il a dit que c'était « I am a legend ». Il aurait dû plutôt dire « Je remercie mon coach de m'avoir formé comme ça ». Mais c'est une parenthèse.
Mais
il y a des courses, vous savez, on est obligé de prendre des photos là sur la ligne d'arrivée pour savoir qui est arrivé en tête là dans l'athlétisme, parce qu'il y en a un qui a dépassé l'autre de
0,03 mm.
Donc, si Dieu est en priorité dans ta vie et que juste à 0,3 mm,
il y a tout le reste.
C'est pas une relation équilibrée avec Dieu. La relation équilibrée avec Dieu,
c'est
qu'il soit numéro un, très très loin numéro un dans ta vie par rapport à ta deuxième priorité. Dieu ne nous a pas dit de jeter tout le reste à la poubelle. Mais ce que Dieu veut, c'est rester une priorité exclusive dans ta vie. Que le reste, ça soit loin derrière. Ça doit être là, mais c'est loin derrière. Jésus a été clair avec eux. Vous me suivez? Ok, d'accord. Et Jésus met la barre très haut. Parce que relationnellement, si nous voulons aller loin avec lui, nous devons nous donner complètement à lui. Dans notre relation avec lui. Jésus n'était pas un recruteur. Vous savez, aujourd'hui, on aime les chiffres. On aime dire, oui, il y a tant de personnes. Vous avez combien de personnes dans votre église? Il y a tant de personnes. Un jour, il y avait un prédicateur qui était énervé contre un autre prédicateur. Parce que cet homme avait dit en public, « Moi, je ne fais pas de différence entre les gens qui ont des petites églises et les grandes églises. » Et puis, ce même homme de Dieu avait entendu l'autre prédicateur dire, par derrière, en privé. Bon, donnez-moi la liste de tous les gens qui ont des églises de plus de 1000 membres. Donc cet autre prédicateur disait en public et en privé, c'était pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui aiment les chiffres, qui aiment les recrutements. Jésus n'était pas un recruteur. Regardez dans Jean chapitre 6. Et Jésus aime réellement ce qu'il y a dans la profondeur de nos cœurs. Jésus va commencer à expliquer beaucoup de choses aux Juifs. Et il y a toute une discussion dans Jean chapitre 6. Et il explique un petit peu qu'il est le pain de vie et qu'en fait, il va donner sa chair pour le monde. Et ensuite, au verset 53, il dit dans Jean 6, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez la vie en vous. Bien sûr, Jésus parlait de choses spirituelles, dans le sens de son sacrifice. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il ne parlait pas de choses physiques, de manger un morceau de chair de Jésus, de croquer Jésus et de boire son sang directement en tirant son sang. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Alors, verset 60, il est dit, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? 61, Jésus, sachant lui-même ce que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est-à-dire partir ? Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, en fait, qui font semblant, qui adhèrent. Ce sont des adhérents, sous-entendu. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Regardez verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Donc les foules commencent à diminuer. Jésus dit donc aux douze, regardez un peu ce que Jésus a dit, j'aime trop cette partie-là. Verset 67, Jésus dit donc aux douze, et vous là, et vous, vous ne voulez pas aussi partir là ? Au lieu de dire, la plupart des leaders auraient dit, non les gars, je vous ai dit ça, mais je vais vous donner toutes les explications et toutes les bonnes excuses pour que vous restiez après avec moi. Il y a des gens qui partent et Jésus leur dit, au plus proche, il leur dit, allez, vous aussi, vous ne voulez pas partir ? Vous ne voulez pas partir ? Jésus ne faisait pas de recrutement. Jésus cherchait des gens réels. Des gens réels. Il n'a pas hésité à dire ça. Quel est le pasteur qui dirait, vous ne voulez pas partir vous aussi ? Non, il y en a beaucoup d'autres qui diraient, venez, on va s'arranger. On va bien trouver un terrain d'entente. Jésus n'était pas comme ça. Jésus était clair. Il leur dit, vous ne voulez pas aussi vous en aller ? Et là, en fait, Jésus était en train de provoquer quelque chose chez ses disciples. Pourquoi est-ce que vous voulez me suivre ? Pourquoi est-ce que vous continuez à me suivre ? Il y a un prix à payer. Il y a une relation à creuser. Verset 68. Simon Pierre, il lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Là, Pierre était encore dans une relation avec le Seigneur qui était très limitée. Il savait que Jésus était vraiment le Messie. Mais il y avait encore un intérêt ici. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi vraiment qu'on veut suivre. C'est vrai que la déclaration nous a choqués. Manger ta chair, est-ce qu'on va faire comme ça et puis on va faire comme ça, boire ton sang? Non, c'est... nous les Juifs nous sommes habitués au sacrifice d'animaux, mais qu'on répandait, on ne buvait pas ça. Jésus leur dit, je vous ai parlé des choses spirituelles, des images. Mais Jésus éprouvait l'amour de ses disciples. Jésus était clair. Celui qu'il suivait devait le suivre par conviction. Pourquoi ? Parce que quand vous suivez Jésus alors que vous le suivez par intérêt, que vous n'avez pas affermi vos convictions, lorsque le moment difficile va arriver, vous ne resterez pas au Seigneur. Pourquoi ? Parce que votre amour n'est pas basé sur des convictions réelles de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Ce sont des convictions qui sont basées sur des choses. Parce que Dieu a fait ceci pour vous. Parce que vous avez entendu parler d'eux. Etc. etc. Et ça, c'est un feu du premier amour qui passe. Qui ne vous amènera jamais très loin. Parce qu'il faudra travailler votre relation avec Dieu.
imigenderanire yawe n'Imana.
C'était une première partie sur la relation avec Dieu.
Icyo ni gice cya mbere.
Nous allons prier ensemble.
Tuzobandanya hanyuma kadusengere hamwe.
Père céleste, merci.
Data turagushima.
Parce que Seigneur, ce que tu veux,
Mana icyo ugomba,
c'est que nous apprenions
nuko twiga
à marcher avec toi dans un amour réel.
Kugendana nawe mu migenderanire ishitse.
Dans un amour qui n'est pas basé sur les sentiments, mais un amour, Seigneur, qui est basé sur les convictions. Un amour qui est basé sur qui tu es, ce que tu représentes pour nous, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour ce que tu as fait seulement pour nous. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as fait des choses dans nos vies. Mais nous ne voulons pas t'aimer pour cela, Seigneur. Nous voulons t'aimer pour qui tu es,
Seigneur.
Et je prie pour chaque personne ici. Et que chaque personne s'examine maintenant. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi est-ce que tu suis le Seigneur? Parce qu'il t'a fait du bien? Parce qu'il a fait un miracle pour toi? Parce qu'il a fait un miracle pour ton voisin? Ou parce que tu l'aimes pour qui il est? Apprends à aimer Dieu pour qui il est. Apprends à le louer pour qui il est. Dans les bons et les mauvais jours, tu passeras ces choses. Et là, tu verras encore plus sa main. Parce que ta motivation ne sera pas une motivation égoïste, mais ce sera une motivation basé sur le cœur de Dieu. Sonde ton cœur, mon frère, ma sœur. Sonde ton cœur et apprends à t'attacher à Dieu pour qui il est, et non pas pour ce qu'il peut t'apporter. Parce que sinon, le jour où tu vas avoir ta bénédiction, ta bénédiction se transformera en malédiction. Tu laisseras le Seigneur, tu te refroidiras. Alors qu'une bénédiction, quand elle vient dans nos vies, quand nous avons un amour sincère pour le Seigneur, la bénédiction nous amène à nous attacher encore plus à lui.
Et
quand nous sommes là simplement pour chercher la bénédiction, alors quand la bénédiction vient, nous sommes entre guillemets comblés, nous avons ce que nous avons reçu, mais nous nous refroidissons pour lui.
Et
ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment malheureux de voir ça.
Parce que
nous voyons beaucoup de gens comme ça venir, prendre ce qui les intéresse et repartir. Quel dommage. Quelle tristesse. Quel manque de compréhension de l'amour de Dieu et de la personne de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et corrigez-vous si vous êtes dans ces mauvaises relations avec Dieu.
Pour arriver
dans la meilleure relation avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté. Et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.